9h25, notre invité est l'entraîneur-chef des Carabins de l'Université de Montréal. C'est une chose, mais en plus, il donne des conférences en entreprise. Et donc, de faire le lien entre diriger une équipe de sport, motiver des joueurs, comment ça s'applique dans le milieu du travail régulier. Danny Machocha est avec nous. Monsieur Machocha, bonjour.
Comment ça va?
Très bien. D'abord, comment l'idée vous est venue de passer du terrain de football à une salle de conférence pour faire justement ces parallèles entre une équipe sportive et une entreprise?
Oui, j'ai rencontré une madame qui s'appelle Linda Sabourin. C'est une amie mutuelle. Elle m'a demandé de faire une conférence. J'en avais déjà fait dans le passé, puis j'ai décidé d'embarquer puis de partager mon parcours pendant mes 14 ans dans la Ligue canadienne, puis les 8 ans à l'Université de Montréal avec les Carabins, le changement de culture qu'on a fait en 2011 avec les Carabins de l'Université de Montréal, puis on a parlé des thèmes, que ce soit la famille, la compétition, de mobiliser le monde, de les responsabiliser, puis on a parlé d'atelier, puis à la fin de la conférence, après quarantaine de minutes, puis on a pris quelques questions, le feedback que j'ai reçu du monde dans la salle, ça m'a inspiré un petit peu. Puis actuellement, avec le travail que je fais à l'université, c'est une façon de redonner aux jeunes, puis de l'impacter, puis de leur donner une expérience spéciale, que ce soit sur le terrain ou à l'extérieur du terrain. Puis je pensais que peut-être je peux partager ces connaissances-là avec le monde dans le domaine des affaires, que ce soit le monde qui sont des gestionnaires des entreprises.
Prenons l'exemple du changement de culture que vous avez effleuré là, chez les Carabins. C'était quoi la culture, puis comment vous l'avez changée en arrivant dans...
Mais écoute, on avait 106 joueurs, on a gardé 65. La question que moi j'avais posée, à Mme Simon, la directrice de sport à l'Université de Montréal, c'est comment vous voulez gagner? Alors, si c'est une question d'embarquer sur le terrain puis d'aller chercher une victoire 21-20, puis c'est ça le but ultime, mais c'était pas quelque chose qui m'attirait. Je voulais pas embarquer dans ce genre d'aventure-là, parce que si c'était le cas, mais je vais continuer de travailler dans le domaine du sport professionnel, que ce soit avec une autre équipe dans les Canadiennes. Alors, on a mis quelques objectifs. Alors, c'est sûr qu'on voulait gagner sur le terrain, mais on voulait aussi gagner à l'extérieur du terrain. Aujourd'hui, on a une tendance d'oublier que la victoire de 2014 de la Coupe Vanier, oui, c'était la première victoire dans l'histoire de l'Université de Montréal, une première Coupe Vanier. Mais on a eu aussi notre meilleure année académique dans l'histoire du programme de football à l'Université de Montréal. Sauf que malheureusement, ça fait pas les manchettes. Mais quand tu gagnes des matchs sur le terrain, ça te donne le podium de rencontrer ces histoires-là, d'en parler.
Mais comment on fait pour avoir une équipe qui performe, puis en même temps avoir des résultats scolaires qui soient à la hauteur?
Il faut t'aligner. Il faut t'aligner, que ce soit à l'université, que ce soit dans les entreprises, que ce soit avec des équipes professionnelles. Les équipes professionnelles qui ont du succès aujourd'hui sont alignées du propriétaire jusqu'à le gérant d'équipement.
Ça veut dire quoi, ça, aligner?
Mais qu'on partage les mêmes valeurs, qu'on partage la même vision, la vision assez claire, puis on pousse tous dans la même direction. Pour nous, ça, c'est quelque chose, ou pour moi, ça, c'est quelque chose qui est primordial. C'est pas négociable. Parce que si on s'en va dans des directions complètement différentes, mais c'est sûr qu'on va payer pour à un moment donné. Alors, moi, qu'est-ce que je réalise de plus en plus, c'est que quand tu t'assois puis tu mets un plan en place, mais c'est très important que vous êtes alignés d'en haut jusqu'en bas.
Donc, tout le monde qui pousse dans le même sens.
Absolument. Puis ça, c'est pas quelque chose qui est négociable. Puis chaque rôle est très important. On a une tendance d'oublier que même les 48 joueurs qu'on habille chaque semaine, on parle toujours du carrière. Mais le 48e joueur va avoir un impact dans le résultat du match. Alors, il faut identifier les rôles. Il faut être conscient que tous ces rôles-là sont très importants. Puis si on pousse tous dans la même direction, mais tout est possible.
Seriez-vous prêt à vous priver d'un joueur talentueux qui va aider l'équipe, mais un joueur qui n'est pas très assidu à ses cours, n'a pas des bons résultats? Êtes-vous prêt à en dire, faut que tu performes sur les deux, là?
Oh, absolument. Pour nous, c'est pas négociable. Quand on est dans la période de recrutement, on cherche des étudiants athlètes. Étudiants en premier. Puis athlète. Alors, c'est sûr qu'on vise les meilleurs. C'est pas du mass recruiting qu'on fait. C'est pas 110 joueurs. On a 85 joueurs qu'on a à l'Université de Montréal. Mais le but ultime, puis aujourd'hui, je peux dire qu'on est quand même satisfait, parce que on est 85% de nos étudiants athlètes s'en sortent avec minimum un bac. puis à travers du Canada, ça, c'est des chiffres assez impressionnants. Pour nous, encore, on n'est pas tout à fait satisfait parce qu'on ne peut pas pour 1000.
C'est parce que, j'allais dire, l'image qu'on a du football universitaire, par exemple, aux États-Unis, ou collégial, c'est que les notes sont théoriques, puis que finalement, c'est le talent, puis s'il y a du talent, on va s'arranger pour qu'il passe.
Oui, là, j'ai beaucoup de monde que je connais, beaucoup d'amis que je connais aux États-Unis, dans l'NCAA. La culture est complètement différente. Les sous sont complètement différents. À l'Université de Montréal, comme j'ai dit, on frappe pour 85%. On a 22 joueurs qui sont des étudiants au HEC. On a 3 en médecine. On a 7 ou 8 à la Polytechnique. On a quelques-uns dans la faculté de droit. Alors, ça représente un petit peu notre équipe. Puis, comme j'ai dit, le but ultime, parce qu'en sachant que le foot va se terminer un jour, j'ai travaillé dans ce domaine-là pendant 14 ans. J'ai eu une belle vie, j'ai gagné de l'argent, mais je suis encore obligé de travailler aujourd'hui. Puis je donne aussi l'exemple d'Anthony Cavillo, qui a eu une carrière extraordinaire. Aujourd'hui, il travaille pour les Argos de Toronto parce qu'il est obligé de travailler. On ne peut pas se permettre de penser qu'on va prendre notre retraite avec une salaire dans la Ligue canadienne. Alors, le bac à main, c'est un minimum pour nous. Puis ça va te rapporter pendant les 40 ou 50 prochaines années.
Notre invité ce matin, l'entraîneur-chef des Carabins de l'Université de Montréal, Danny Machocia. On dit que les jeunes n'ont pas nécessairement les mêmes d'aujourd'hui, là, n'ont pas nécessairement les mêmes priorités, les mêmes valeurs, que certains pour qui la discipline, c'est plus difficile. Sentez-vous ça d'abord, depuis le temps que vous êtes dans le football, puis dans coacher une équipe comme ça, que les approches changent?
Oh, absolument. Il faut que tu t'adaptes. On peut pas...
Qu'est-ce que vous remarquez comme changement, vous?
Oh, probablement que... Le sens que il y a des choses qu'on leur doit. Manque de responsabilité. Des fois, ils prennent plusieurs choses pour acquis. De pas respecter leurs rendez-vous. Je donne un exemple. Nous, on a des réunions qui débutent à midi, mais ma porte, je vais la fermer à 11h58 parce que c'est très important qu'ils sachent qu'à un moment donné, quand tu quittes l'université puis tu tombes sur le marché du travail, si tu te pointes pas à ton travail, tu vas payer pour. C'est pas négociable. Alors, il faut les responsabiliser. Alors, je travaille très fort de leur faire comprendre comment ça fonctionne dans la vraie vie, mais il faut qu'on s'adapte aussi comment on peut transmettre ces messages-là. Alors, c'est sûr que...
Mais c'est vrai aussi en milieu de travail. C'est la même
absolument.
Réalité des employeurs, moi, qui me disaient, ils se font... Et surtout dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, où en tout cas, c'est plus difficile. Ça fait pas ici, ça va faire ailleurs...
C'est tout à fait ça. Alors, c'est la raison principale que nous, on travaille tellement fort avec eux. Puis on leur donne 3 choses à la fin de la journée. Il faut être capable de communiquer avec ton monde. All right? Que ce soit même dans le domaine des affaires. Si tu veux savoir le pouls de ton entreprise, descends sur le plancher, passe du temps avec tes employés, laisse-toi d'aller dîner avec ton VP en com ou marketing. Si tu veux vraiment savoir qu'est-ce que le monde pense de ton entreprise, ça se passe sur le plancher. Puis tu leur donnes une opportunité de les connaître aussi. Je pense que l'autre chose qui est très importante, c'est le coaching. Côté coaching, de partager une vision que eux, ils vont adapter puis ils vont se sentir qu'ils font partie de cette vision-là parce qu'ils ont partagé dans cette vision-là. Puis la troisième chose qui est très importante, c'est de prendre soin de eux. On a une tendance à oublier, mais ils veulent se faire reconnaître, ils veulent se faire apprécier. Puis de temps en temps, un petit merci, ça peut aller assez loin.
Vous auriez fait quoi, vous, avec Piqué-Souban?
Que ce soit Piqué-Souban, que ce soit Gail Chaniak ou le dossier actuel de Max Pacioretty, quand tu as des joueurs talentueux, puis on connaît comment ça fonctionne avec des jeunes aujourd'hui, on va toujours trouver des solutions. Moi, je pense que... Puis je suis pas au courant de tous les détails de ce qui se passe, mais... Même le langage corporel hier entre la direction du Canadien puis Pacioretty, ça veut beaucoup dire. Moi, je pense qu'il y a un manque de communication. Puis je pense qu'il y avait peut-être un manque de volonté de s'asseoir puis de discuter c'est quoi les problèmes puis comment on peut régler ces problèmes-là. À un moment donné, je pense qu'ils vont être obligés de le faire. Parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre des joueurs talentueux comme des Pacioretty, des Galchenyuk puis des Piqué-Souban.
Hier, quand vous avez vu la poignée de main puis l'espèce de froid qui était très clair entre les deux, vous dites là, on va se retrouver dans le vestiaire, on va se retrouver avec le camp d'entraînement. ça sera pas agréable.
Pas du tout. Puis on parle pas d'un joueur de quatrième trio. On parle de ton capitaine. Ça veut dire que c'est le lien entre l'entraîneur en chef, ton DG, puis ton vestiaire. Des fois, il y a des messages qu'il faut passer dans le vestiaire, mais t'as un capitaine que tu y crois pas en lui. Puis lui, il est pas tout à fait convaincu que il veut rester à Montréal. Puis c'est même pas une question d'argent. J'écoute du monde et dit est-ce que ça vaut 7 000, est-ce qu'il vaut 7 millions, 8 millions, 9 millions? L'argent, que ce soit à Montréal, que ce soit en Floride, que ce soit à Pittsburgh, il va l'avoir. Mais ce jeune-là, il a besoin de sentir qu'on veut l'avoir. On veut s'entourer de lui, puis on l'apprécie énormément pour tout ce qu'il a fait à date. Est-ce que c'est notre meilleur capitaine à date? Ça, c'est une discussion que je vais laisser à les partisans d'en parler entre eux, mais la réalité, c'est que c'est notre meilleur marqueur depuis les 4 ou 5 dernières années. C'est une personne qui s'exprime très bien, bien respectée, et il fait beaucoup de bien avec ses fondations sur l'île de Montréal. Puis je pense qu'on devrait trouver une façon de le garder, mais il y a un manque de communication quand je vois qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là actuel.
Vous me direz si c'est pas ça, là, mais ce que je retiens de vos propos, c'est quand un joueur de talent qui est peut-être pas facile à gérer pour toutes sortes de raisons, il faut le travailler. Il faut s'en occuper, puis il faut créer l'environnement dans lequel il va fonctionner.
Oh, absolument. Puis l'exemple que moi, je peux vous donner, c'était Mike Pringle à Montréal quand j'étais avec les Alouettes. C'était un joueur exceptionnel. C'était, je trouve, dans la trempe de renommée, probablement le meilleur porteur dans l'histoire de la Ligue canadienne. C'était de loin le joueur le plus facile de diriger. Puis il y avait des entraîneurs en chef qui l'évitaient à tout prix. Puis ils passaient leur message parmi l'entraîneur de position qui était moi. Puis c'était à moi de lui parler. Puis c'était pas tout à fait facile. Mais le message était toujours clair. Je me suis toujours assis avec lui pour lui faire comprendre pourquoi on le faisait. Je voulais savoir comment lui voyait tout ça. Puis pas seulement on a travaillé 6 ans à Montréal ensemble, mais quand il s'est fait libérer ici, il m'a appelé tout de suite pour venir à Edmonton, puis on a gagné une Coupe Grey ensemble. Alors, c'est quelque chose que il faut que tu y travailles, mais ça commence avec la communication, puis d'être honnête, d'être transparent, puis d'être à l'écoute aussi.
Merci beaucoup d'être venu ce matin.
Un gros merci
Danny Mathiocha, l'entraîneur-chef des Carabins de l'Université de Montréal. On fait la pause, 9h38, et on revient après pour la suite.